Notre première invitée est une chorégraphe de la matière, à la fois danseuse et plasticienne. Habituée de la manifestation Monuments en Mouvement, qui propose, comme son nom l'indique un peu, de porter au sein des monuments français des performances chorégraphiques et circassiennes, elle est l'une des invitées de la 5e édition et se produira aujourd'hui et demain dans le temple républicain qu'est le Panthéon. Un travail inspiré des statues figées de nos villes qui porte sur l'érosion, l'effacement, la confrontation entre l'immensité de l'histoire et la matière mouvante de nos corps. Entre deux répétitions, elle a accepté de venir jusqu'à nous pour notre plus grand plaisir. Bonjour Nathalie Pernette.
Bonjour.
Bienvenue. On entendait une musique de Célia Cruz reprise par Angélique Kidjo et j'aimerais vous demander à vous, la danseuse, la chorégraphe, quel est votre rapport à la musique? Comment utilisez-vous la musique dans vos spectacles?
Alors je l'utilise comme un partenaire de scène, c'est-à-dire on tente d'établir des liens, des rendez-vous, mais d'avoir une indépendance, puisque je suis issue d'un mouvement qui s'appelle la danse contemporaine, qui s'est un peu affranchie d'à peu près tout. on a pu danser sans argument, sans costume, parfois sans musique aussi, hein, le silence est bienvenu, et puis aussi parfois sans scène et sans théâtre. Enfin, finalement, c'est une liberté donnée à tous les créateurs d'inventer son vocabulaire, ses thématiques. Et puis ces lieux de danse et de représentation.
Pourtant, vous n'avez pas commencé par la danse contemporaine. Vous avez fait quelques classes de classique, parce que c'est la base. Hein. Vous avez commencé par la danse classique avant de vous tourner vers la danse contemporaine. Mm-hmm. Mais on perd jamais les bases acquises dans le classique, même si on s'en affranchit.
Oui, on en garde quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi. Peut-être une netteté du mouvement, une précision. Mais bon, on l'a peut-être aussi déjà en soi avant même d'aborder n'importe quel style de danse. En tout cas, j'ai commencé par la danse classique car à mon âge et en province, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'autres possibilités. Mais dès que d'autres offres m'ont été faites, je suis allée un peu partout, du modern jazz, à la danse hip-hop, en passant par la danse contemporaine, qui a été une vraie découverte, c'est-à-dire inventer ses propres mouvements, ça a été une révélation.
Une liberté.
Une liberté totale.
Une liberté, voire une libération. De la même façon, Nathalie Pernette, qui a été pour vous, en quelque sorte, la libération par la danse, c'est-à-dire que vous étiez une enfant plutôt réservée, plutôt mutique, et la danse a été pour vous une façon de rompre le silence.
Oui, alors il paraît que dès qu'on mettait une musique dans la maison,
ça, c'est la légende familiale.
C'est la légende familiale.
Vous dansiez,
voilà, et que véritablement la danse avait l'air d'être un moyen, en tout cas, de m'exprimer, qui était assez naturel. Donc les médecins, qui sont toujours autour des enfants et des familles, avaient préconisé deux méthodes pour m'ouvrir au monde, qui étaient la pratique d'une discipline artistique, alors plutôt la danse, voilà, du coup. Et puis
tant qu'à faire, ça vous plaisait,
ça me plaisait.
Bon.
Et puis un chat à la maison.
Ah, voilà. Un animal domestique.
Un animal domestique.
Vous avez eu les deux, vous avez
choisi. J'ai eu les deux.
Vous avez eu les deux. Bon, bah alors vous êtes vraiment ouverte au monde.
Mais je dirais que ni l'un ni l'autre m'a permis vraiment de parler.
D'accord, voilà, mais d'une certaine façon, on peut considérer que les mouvements, la danse, le geste chorégraphique, c'est un langage.
C'est absolument un langage et c'est un autre monde, dans lequel, en fait, les règles sont un petit peu différentes. Le temps est autre, aussi. Et puis, la relation à l'autre, elle se fait autrement que par le verbe. Donc, elle se fait par le regard, par le toucher, par la sensation de l'espace entre nous. Donc, on est avant tout des animaux qui avons aussi un langage et une manière d'être les uns vis-à-vis des autres qui n'a rien à voir avec l'humanité parlante.
Vous avez beaucoup observé et écouté votre chat, manifestement.
Tout
aussi,
à fait.
Nathalie Pernette. Sur le site de votre compagnie, on peut lire que vous ancrez le mouvement dans la spontanéité, la décharge émotive nourrie de la sensation intérieure et que vous avez des angles vifs, mm-hmm, instinct et rigueur sur fond d'interrogation permanente.
Ouh, waouh. Tout ça.
C'est vous qui avez écrit ça?
Je crois pas.
Est-ce que vous vous reconnaissez?
Oui, je me reconnais.
Malgré tout, oui.
C'est-à-dire que déjà dans ma gestuelle, on va dire que j'ai cultivé depuis mes débuts un goût pour la précision et les angles.
Enfin, c'est une danse. Ça, c'est la danse classique aussi.
Ça, c'est la danse classique.
La rigueur et la précision.
La rigueur, la précision et quelque chose d'assez urbain finalement, puisque je me reconnaissais vers les 20 ans plutôt comme une personne urbaine, habitant les villes, chargée de oui, de musique rock aussi, industrielle. Enfin, j'étais, voilà, j'étais pas du tout à la campagne. Et puis, je qualifierais ma danse d'expressionniste abstrait. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'aime, c'est vraiment la matière, travailler la matière et la définir.
Oui, chorégraphe de la matière, c'est voilà, vous qui le dites. Ouais, hein.
Une grande rigueur, une grande recherche sur la matière dansée. Mais en même temps, je ne peux pas la concevoir sans qu'elle soit nourrie de l'intérieur. C'est-à-dire qu'en tant qu'interprète, vraiment, on cherche une espèce d'équilibre entre la forme et le fond, ce que l'on vit et ce que l'on donne à voir.
Et c'est étonnant quand vous dites expressionnisme abstrait et chorégraphe de la matière, parce qu'on dirait presque que c'est contradictoire. Mmh. Chorégraphe de la matière évoque justement tout ce qui est organique, donc tout ce qui est sensible, tout ce qui est sensation, alors que expressionnisme abstrait paraît assez froid et extérieur. Alors c'est vraiment très caricatural et très schématique. Il est 7h15 du matin, on me le pardonnera, en plus on est samedi matin, Nathalie Pernet. Mais non, c'est pas contradictoire?
Non, en fait, ce sont deux courants en danse contemporaine qui le sont, parce qu'on parle, il y a des grandes références comme ça avec Cunningham qui est vraiment dans l'abstraction, et puis d'un autre côté, comme Marie Wigman qui était vraiment dans l'expressionnisme. Et moi, j'ai été formée un peu aux deux écoles et j'ai essayé de, je dirais peut-être, de trouver un juste milieu,
un compromis,
un compromis, étant française entre l'Allemagne d'un côté et les États-Unis de l'autre.
Vous êtes vraiment danseuse, hein. Vous parlez avec les bras, avec les mains, le corps parle quand vous exprimez. Comme on n'est pas filmé dans cette émission des matins du samedi, je me permets de le préciser pour nos auditeurs. Est-ce que vous vous nourrissez d'autres arts? Je disais que vous êtes aussi plasticienne. Oui. Je crois que les arts plastiques et le cinéma sont aussi des sources d'inspiration importantes.
Je me sens plus visuelle, inspirée par l'image, inspirée par la musique, et moins inspirée par les mots.
Je suis fidèle à moi-même. On dirait pas, parler.
Donc je me nourris beaucoup de films et d'une iconographie qui est liée en fait à toute la peinture, qu'elle soit de la Renaissance jusqu'à nos jours. Hein. Et puis, ça nourrit vraiment et la thématique et le mouvement lui-même. Voilà. Donc, je suis assez sensible à ça. Et puis au film, effectivement. Alors, je ne saurais dire quel est mon film du moment, mais en tout cas...
Ah, mais je n'allais même pas vous le demander. Vous voyez, vous anticipez même les questions. Vous sortez souvent des salles de spectacle pour investir les lieux urbains. Vous disiez que vous êtes une danseuse aussi urbaine, mais plus que cela. Donc, la danse n'est pas un lieu réservé aux salles de spectacle dans votre conception des choses.
Mais j'ai même commencé comme cela. C'est-à-dire, dans les années 90, je dansais et je dansais partout. Donc, encore une fois, dans ce milieu un peu du monde de l'art industriel, enfin entre musique industrielle et puis toutes les danses performatives qui allaient de soi. Donc, on dansait dans des ascenseurs, on faisait des performances comme ça.
Les grands ascenseurs.
Les grands ascenseurs, voilà, pour surprendre le public, c'est-à-dire les personnes qui attendent l'ascenseur et qui nous découvrent à l'intérieur. Enfin, on a fait toutes sortes de choses. Et pour moi, il n'y avait pas de frontière entre l'intérieur et l'extérieur. On pouvait tout à fait être dedans et dehors. Et j'ai cultivé, ce côté bipolaire là pendant un certain temps, avant d'être prise à pied par la salle. Parce que voilà, c'était un mouvement qui nous demandait. Et puis ensuite, j'ai eu l'envie de ressortir.
Et par exemple, vous serez au festival Chalon dans la rue. Oui. Alors, danser dans la rue, ça fait quoi?
Alors, danser dans la rue, c'est un peu le summum. C'est-à-dire, quand on a dansé en salle, on sent la salle. On sent le spectateur, on a du lien, mais ce lien, il est quand même polissé. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce fameux quatrième mur qui nous permet d'être tranquillement d'un côté et le spectateur tranquillement de l'autre. Dans l'espace public, comme on dit, et quand les œuvres sont en plus écrites pour l'espace public, il y a une forme d'interaction possible. Le plus souvent d'ailleurs, moi, ça m'a permis d'aller au contact physique avec le spectateur, d'être vu de très près. Donc avec un regard qui est presque un peu intrusif, voilà, mais on peut se donner à voir comme ça, on peut s'amuser de cela. Et puis on joue avec une architecture, avec un décor finalement absolument naturel, et puis des énergies, puisque les espaces publics sont divers. Certains sont traversés de plein de monde, comme une rue piétonne, d'autres sont au contraire reculés, ils font partie d'une sorte de no man's land, ou alors sont peuplés, je dirais, d'âmes un peu errantes. Enfin, donc, en fait, je suis assez sensible à l'énergie que, que procure un lieu et la manière dont il est habité ou pas.
Et danser à l'abbaye de Cluny ou au domaine du Palais Royal, comme vous l'avez fait lors des monuments en mouvement précédents, ouais. Nathalie Pernette, ça fait quoi ça?
Ah bah
c'est très différent.
Ouais, c'est très différent. En fait, on peut parler d'espaces qui sont non dédiés, tout en étant publics, mais pas forcément offerts, je dirais, à la vue de tout le monde en permanence. Donc, ce sont des espaces un peu protégés, mais qui ont quand même l'habitude d'être traversés au moins par des touristes, des visiteurs ou des habitants du quartier.
Mais pas nécessairement des danseurs. Et encore moins des gestes chorégraphiques. C'était le cas d'ailleurs du Panthéon où vous allez donc vous produire aujourd'hui et demain dans le cadre de cette édition, cinquième édition de Monuments en Mouvement. Le Panthéon représente quoi pour vous? On a beaucoup d'imaginaires à propos du Panthéon. Église, tombeau, musée.
Un peu tout cela. Et puis en fait, c'est vrai que c'est la mémoire, c'est dédié à la mémoire des grands hommes qui ne sont pas forcément des hommes politiques, des chefs d'État,
d'ailleurs,
etc.
Il y a même quelques femmes maintenant.
Voilà, et même quelques femmes, heureusement. Il n'y a pas beaucoup. Hein, mais et qui ont peut-être bâti cette France républicaine, en tout cas, et engagée dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Voilà. Et donc c'est en même temps un lieu de culte, sans en être un, c'est un lieu de mémoire et c'est un lieu de conservation. Voilà, je dirais, c'est un peu tout ça.
Le premier à avoir fait entrer la danse au Panthéon, justement c'est dans le cadre des Monuments en Mouvement, c'était en 2015, c'était Radouane El Medeb. Écoutez ce que le lieu lui inspirait comme sentiment, comme impression. Radouane El Medeb.
Le lieu est impressionnant, très grand, ce marbre, ces statues, ces fresques. C'est un lieu assez mystérieux, pesant. Quand on y arrive, quand on est devant, on se sent tellement petit. Et quand on sait qui sont là et quand on découvre un peu l'histoire et l'évolution un peu de ce lieu, on est encore chargé de responsabilités et de... Voilà, c'est tout ça à la fois. Je suis encore dans ça, Et on y est. Et puis hier, donc, on a présenté pour la première fois un spectacle de danse au cœur de ce monument emblématique de la République.
Nathalie Pernette, c'est un lieu intimidant, le Panthéon?
Oui, un petit peu, oui. Il est vaste, il est chargé. Voilà, de fresques, de statues, de symboles, de protocoles, de solennels. Enfin bref, on est quand même dans un lieu qui inspire, je dirais pas la raideur, mais en tout cas une certaine hauteur, une certaine présence.
Et est-ce que du coup vous avez imaginé quelque chose en rapport avec le lieu pour vous fondre dans ce lieu, ou au contraire vous avez voulu vous en émanciper?
Alors c'est étonnant, parce que ce que dit Radouane me touche aussi sur l'endroit de la petitesse de l'immensité. C'est-à-dire que moi, quand j'ai visité ce lieu, je me suis dit « Oh, je rêve du coup de quatre petits danseurs sur un petit socle à l'intérieur de cette immensité et de cette variété des personnages. » Parce que c'est très chargé, effectivement, en fresques, en statues. Et elles sont plus grandes que nature, évidemment, que l'être humain. Donc il y a eu cette espèce de recherche de la différence, enfin, de l'opposition, du contraste, déjà. Donc ça me plaisait beaucoup, de tenter, parce que c'est quand même une tentative, hein, et un pari, d'être tout petit et de rester petit dans cette immensité. Et puis l'autre point qui m'a touchée, parce qu'il croisait réellement ce projet de la figure de l'érosion, c'était d'évoquer aussi que cette pierre ou que ces bâtiments, de toute façon, sont périssables, même si on ne le voit pas à l'œil nu. Bon, récemment, on l'a vu avec Notre-Dame, mais en tout cas, il y a les accidents de la matière, ça existe. Ça peut être violent, ça peut être au contraire progressif et se faire sur des milliers ou des centaines d'années. Donc la pierre vit malgré son apparente immobilité. Et en plus, dans ce lieu-là, on a toute une couche, enfin, on a des couches successives d'histoire qui se retrouvent au travers des personnages qui sont présents. C'est comme une mémoire de notre République. Donc en fait, c'est la grande histoire aussi qui rencontre la petite histoire d'une compagnie qui vient là, se lever comme ça dans dans la nef, quoi. Enfin, dans le cœur.
Ce qui est sûr, Nathalie Pernet, c'est que vous avez été très inspirée par, par ce lieu et par ce Paris, hein, donc, qui est monument en mouvement au Panthéon. De quoi expérimenter pour vous ce rapport entre le corps et l'esprit, d'une certaine façon? C'est-à-dire, expérience corporelle, puisque déploiement de ces quatre danseurs. Ouais. Et bien sûr, tout à l'heure, nous allons développer ce que vous allez faire avec Figure de l'érosion. Et puis aussi, façon de réfléchir. Là, on retrouve vos obsessions chorégraphiques, d'une certaine façon.
Oui, oui, oui. Puis on a, enfin, je trouve qu'une création, de toute façon, elle est toujours motivée par un questionnement. Voilà, qui est contemporain, qui est celui d'aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pour moi, la question de la mémoire, depuis quelques temps, est une question importante. Je dirais aussi, peut-être de plus en plus cruciale, au vu de ce que je peux entendre, des oublis des uns et des autres. On a évoqué sur pas mal d'antennes le fait que la Shoah, par exemple, n'était plus évoquée dans beaucoup de familles, que peut-être X% des adolescentes ne savaient même pas qu'elle avait existé. Donc c'est effrayant. Enfin, pour moi, c'est effrayant. Alors, il ne s'agit pas de faire une œuvre ni didactique, mais de rappeler ou de ramener aux oreilles, à une mémoire potentielle, un certain nombre d'époques, de personnages, voilà, de raviver la mémoire.
C'est ce qu'on commence à entendre avec cette bande-son qui accompagne votre performance, Nathalie Pernet, cette musique avec un mélange entre l'extrême douceur d'un violoncelle et puis la pluie qui tombe, voilà, c'est d'actualité en plus, et puis la brutalité du monde extérieur, le chaos avec des voix, de la foule, des chants, des hymnes. On en écoute un extrait.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, honorable représentant de la communauté internationale, je viens en ce lieu vous apporter le salut fraternel d'un pays de 274 000 km², de 7 millions d'enfants, de femmes et d'hommes, refusent désormais de mourir d'ignorance, de faim et de soif, tout en n'arrivant pas à vivre véritablement depuis un temps de guerre, en butant dans cet état
souverain.
Là aussi, contraste, hein, Nathalie Pernet, entre ce chaos du monde et l'histoire qui charrie toutes ces voix. Et puis la douceur et la lenteur des mouvements sur scène. Est-ce que vous diriez que vous souhaitez aussi aller à contre-courant du monde et que ce serait le rôle de l'artiste de prendre ses distances par rapport à l'histoire?
En tout cas, il faut s'en emparer et puis en faire œuvre. Voilà. Donc moi, c'est une œuvre un peu... mélancolique, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la mélancolie en tout cas dans cette partie-là en particulier où tout est ramené comme ça, enfin toute la noirceur du monde aussi parfois, hein, mais il y a aussi des belles choses, il y a des beaux discours,
il y a des belles causes,
mais tout ça est un peu ramené dans le même fleuve et puis on le porte, mais on le porte avec une espèce de douceur triste qui interroge aussi sur l'avenir. Voilà. Enfin, on se dit, mais où va-t-on avec tout ça? Où est-ce que ce fleuve va encore nous amener? Donc, c'est pas forcément très optimiste, tout en étant, je dirais, dans l'écoute, dans la douceur, dans une forme de bienveillance.
Enfin, les pieds sur terre aussi.
Les pieds sur terre.
En fait, les pieds sur terre, la tête
dans les nuages.
La tête dans les nuages, exactement. Allez, on vous retrouve dans 2 minutes. Restez avec nous, à la fois la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Il est 7h30 sur France Culture. La danseuse et chorégraphe Nathalie Pernet est avec nous ce matin. Elle va se produire avec 4 danseurs. En plutôt, c'est les 4 danseurs qui se produiront tout à l'heure au Panthéon à Paris dans le cadre de la manifestation Monuments en mouvement. Ce spectacle aura lieu à la fois aujourd'hui et demain. Il s'intitule La figure de l'érosion et c'est donc la troisième pièce d'un triptyque. Un triptyque qui a pour titre Une pierre presque immobile. Les deux précédents, c'était la figure du gisant. Puis la figure du baiser. Vous nous parleriez des deux précédents avant de nous expliquer le dispositif de celui-ci?
Oui, alors la figure du gisant, en fait, elle est vraiment née de l'intérêt pour les gisants, les tombeaux, les cimetières, qui furent un de mes terrains de jeu quand j'étais enfant. J'adorais ces endroits qui sont relativement calmes, on peut le dire, qui sont en même temps des beaux endroits de promenade. Et on y rencontre d'ailleurs beaucoup de chats et beaucoup d'animaux. Donc ce sont des lieux vivants malgré tout. Donc l'idée était de s'inspirer aussi de toutes les figures des gisants que j'ai pu croiser, et en particulier à la basilique de Saint-Denis, puisque tous nos rois de France sont là-bas. Et puis de réveiller les morts, voilà, de faire en sorte que les âmes reviennent vers nous, humains, spectateurs, reprennent contact, et puis nous disent aussi un dernier adieu. Donc c'est souterrainement une pièce sur le deuil aussi, et sur la manière dont on quitte. Dont on se quitte, les vivants et les morts.
Dans le deuxième volet, ils s'embrassent ?
Voilà. Dans le deuxième volet, l'inspiration était plutôt les statues des jardins, un brin dénudé, un brin érotique, qu'on peut trouver dans tous les jardins publics en général. Et puis, du coup, il y a un côté charnel, c'est vraiment la rencontre des corps, mais de chair. Et puis, c'est un questionnement sur la manière dont on se croise, dont on se retrouve, dont on se touche ou pas, surtout dans nos villes modernes, et le plus souvent d'ailleurs on s'ignore.
Donc on voit bien que c'est à la fois inspiré des statues commémoratives en ville, et puis des monuments aux morts, ce qu'on retrouve donc là au Panthéon, avec les fresques, avec les statues, les sculptures. Le dispositif de la figure de l'érosion, c'est devant la statue de la Convention nationale, on a un socle, quatre danseurs, et une pièce donc sur le thème de la disparition. Mais Nathalie Bernat, comment traduit-on la disparition en danse ?
Alors c'est assez complexe, surtout quand on veut faire en sorte que les corps empruntent une densité qui n'est pas celle des corps humains. Donc là, on a vraiment travaillé sur la pierre, avec cette densité forte, cette pression, c'est moléculaire en fait. C'est essayer de essayer d'être autre chose, autrement, et puis de se dégrader aussi. Donc on a étudié, d'ailleurs avec des personnes qui travaillent à la conservation de la pierre, qu'est-ce qui attaque la pierre et comment son corps se dégrade. Donc par fissure, par émiettement, par fonte progressive, par explosion.
Ils finissent par comment, vos danseurs?
ils disparaissent réellement, c'est-à-dire qu'on finit par quitter les lieux, mais ils finissent en miettes. On a une dernière partie qu'on appelle les miettes, parce qu'on nomme les parties de danse, ça nous permet aussi de savoir de quoi on parle entre nous. Et les miettes, c'est une danse du minuscule. C'est comme une danse hip-hop miniaturisée. C'est-à-dire qu'en fait, tout le corps se dégrade petit à petit, articulation par articulation, pour descendre et lutter en même temps contre la gravité, et s'effacer dans une horizontalité et une vraie disparition derrière le socle.
L'idée, c'est de se laisser aller à la rêverie, en tous les cas pour ce que vous offrez au spectateur.
Oui, en fait, j'ai envie, ce qui est complexe, d'établir pour le spectateur une fascination pour ce qu'il voit, alors qu'on est en espace public, ce qui n'est pas simple. Donc la rêverie, c'est un peu comme une ponge qui pouvait entrer en rêverie devant une fissure sur un mur, avec le parti pris des choses. Donc c'est comment on peut, d'un petit détail, aller vers l'immensité, et encore une fois l'immensité de l'histoire.
Est-ce que ce spectacle, La figure de l'érosion, va tourner après, dans d'autres lieux?
Oui.
Et elle aura la même forme,
elle aura la même forme.
Alors qu'il est très très lié au Panthéon.
Oui, voilà. Mais elle va résonner, je pense, différemment selon les lieux qui vont l'accueillir. Donc les monuments aux morts, par exemple à Besançon, dans le cadre d'un festival qui s'appelle Jour de danse, mais aussi une forge en décrépitude, en déconstruction, à Trignac, à côté de Saint-Nazaire. Donc en fait, parfois, les lieux qui vont accueillir cette pièce sont des lieux qui sont en train de disparaître eux-mêmes, ou des lieux de commémoration, ou parfois une place qui mériterait une statue, il n'y en a pas. Donc on va la mettre, on va l'inaugurer.
C'est très beau, c'est très beau, c'est très fort, il faut le dire. C'est très beau, très fort. Donc tous ceux qui peuvent aller voir la figure de l'érosion, puis peut-être même la figure du gisant, la figure du baiser, tourne-t-elle encore, bien sûr. Nathalie Bernat, eh bien j'invite nos auditeurs à se rendre, alors au Panthéon ce week-end s'ils le peuvent, et puis sinon un peu partout en France, puisque sur le site de votre compagnie on voit les tournées. Vous serez par exemple jeudi et vendredi prochain au Centre culturel de Sarlat pour la création Bella Donna. On va se quitter en musique, puisqu'on a commencé avec la musique, avec un choix que vous nous avez apporté, Elias Driss.
Oui,
on écoute.
On écoute.
go far away. Don't say you've not been hurt. You must feel this thorn inside your heart. It's your turn, your turn. The most beautiful flowers fade and sting, but you already know all these things. You teach them to me. You teach them to me.
Eh bien, merci beaucoup Nathalie Pernette d'être venue nous voir ce matin et merci pour cette douceur que vous nous avez également apportée avec vous.
Merci à vous.
Et puis bon vent pour la figure de l'érosion et Monuments en mouvement qui se produira donc au Panthéon aujourd'hui et demain. Il est 7h40 sur France Culture et tout de suite c'est la Fabrique médiatique.